Épuration. Nom féminin. Action d'éliminer les impuretés contenues dans un produit. Larousse. Croiser, chasser. Alors commença l'épreuve. Le conducteur de la Peugeot 402 légère a 33 ans. Il porte une veste grise, une chemise humide, une cravate courte, bordeaux. Sa veste en lin est chiffonnée. Il monte de Lyon. C'est la canicule en bas, 37 degrés. Il a fait 3 heures de route et passé 8 barrages. Il a sué. Le conducteur immobilise le 4-cylindres route de Villard-de-Lans devant les 2 charrettes qui barrent l'accès nord du village. Il présente son laissez-passer à l'un des 5 maquisards en poste. Le maquisard s'avance et le pointe avec son Sten, une arme britannique qui a plus à voir avec les machines à dénoyauter les pruneaux qu'avec un PM. Il arbore un brassard tricolore aux couleurs délavées par-dessus la manche de sa chemise bleue foncée, avec la croix de Lorraine et 3 lettres en noir. C'est brodé FFI. Il sonde l'habitacle, repère le jerrycan sur la banquette arrière et le journal sous le paquet de cigarettes à l'avant. C'est l'édition des Allobroges. Une page de papier plié en 8. Il y a une photo sépia, 3 tondus devant la prison de Grenoble. Le maquisard ne sait pas lire. Il est pourtant écrit « En représentation hier après-midi devant la prison Saint-Joseph, on fit admirer aux Grenoblois l'esthétique de la nouvelle ondulation en faveur dans le haut état-major de la Wehrmacht, au service de laquelle elles avaient mis leur charme et leurs activités. » Le conducteur, lui, a lu l'article. À l'aube, il s'est arrêté à la côte Saint-André pour y boire un café, dans les terres froides exsangues de chaleur. Il a acheté le journal et lu toute la feuille, recto et verso. Les Alliés libèrent les villes et les villages un à un depuis le débarquement de juin en Normandie et celui du 15 août en Provence. Les bombardements redoublent. Caen est une cité maudite, fatras de pierre et amoncellement de cadavres pour l'éternité. Une ville fantôme. La Royal Air Force s'occupe maintenant du Havre, y verse des tonnes de métal hurlant du ventre de ses bombardiers. Le conducteur connaît le prix à payer des décisions politiques de destruction. Pourtant, les tondus, ça ne lui plaît pas trop. Son regard dévie sur le panneau d'entrée du village. Le nom de la commune a été barbouillé de blanc. Sous le numéro de la départementale, entre 2 petits drapeaux qu'on sait français, est inscrit « Ici comme Hans, le P.I. de la Liberté ». Des impacts de balles ont creusé la pierre et effacé 3 lettres. Pendant que le maquisard ausculte le laissez-passer, le conducteur cherche la Vierge du Vercors au bout de la falaise de Roche-Rousse. Mais il n'aperçoit pas le rocher détaché de la pique, cette femme que le vent et la pluie ont dressée vers la prière. Rien que le blanc du calcaire et ses coupes jaunes qui rougeoieront le soir. C'est de toute façon peine perdue. On ne l'entrevoit qu'à la sortie du village. La Vierge veille d'abord sur Saint-Martin. Le conducteur observe le maquisard, puis distingue, entre ses jambes qui forment un V inversé, les trous dans la prairie séchée. L'herbe jaune s'étend, poinçonnée de beige, la terre est retournée, arrachée des positions hautes par les artificiers Bosch. Il voit les grands sapins fracturés en plein milieu de leur tronc, les larmes du feu, la nature que les hommes ont immolée dans le théâtre de leur furie. Il connaît la musique. Son père a son nom sur une stèle. C'est dans un village bordé par la Deule qu'il a quitté gamin après que le vieux fut mort durant la Grande Guerre. Le maquisard numéro 1 s'appelle René, et il est gros. Il ne fait pas de zèle. Il prend la température auprès de son chef avec les yeux et lui tend le laissez-passer. Son chef est un grand freluquet adossé à la plus grosse charrette. C'est un enfant. Ses joues sont lisses, sa moustache et son menton encore duveteux. Le freluquet avance, il est débraillé, il déchiffre. Le laissez-passer est signé du commissaire à la République installé officiellement depuis 7 jours à Lyon. L'objet de la lettre de mission est « Transfert du Vercors, prisonnière Sarah Ehrlich, dite la baronne ». L'agent traitant est expressément nommé, son rattachement aussi. Les 3 autres gars lisent par-dessus son épaule. Ils baissent les regards, contemplent leurs chaussures et cherchent comme la vérité dans la poussière. Ces FFI sont des civils, deux n'ont jamais tiré leur coup. Le plus petit s'échappe et file jusqu'à l'accotement. Il semble un peu plus vieux que les autres, le conducteur dirait 22, 23 ans. Le conducteur allume une cigarette et observe dans son rétroviseur. Le petit est moustachu et urine contre le tronc d'un platane. L'écorce a été saignée par le feu d'armes légères. Le chef approche du véhicule. Le conducteur hoche la tête. Le chef est un blanc-bec de 17 ans. Du lait sortirait par son nez rond si on lui appuyait dessus. Le petit est toujours vers son arbre. Il se rembraille. Le chef lit, mi-haut. Il a une voix de freluquet. Il dit « Officier traitant Georges Duroy, commissaire de police, près le délégué général à l'épuration. » La fin de la phrase se perd dans les aigus. Le chef ne contrôle pas l'écarquillement de ses paupières. Le commissaire Duroy n'a pas encore prononcé la moindre parole ni décliné son identité. Le papier suffit. D'autant que tout le monde connaît la baronne Ehrlich. Le chef vérifie la pièce d'identité, la carte de police. Il renseigne le commissaire Duroy sur le quartier général si à Saint-Martin-en-Vercors. Il gonfle le torse. L'accès à Saint-Julien, c'est plus important que la naissance de la République populaire de Bulgarie ou que les bombardements de la France. Le petit moustachu se planque toujours derrière la voiture. Le chef dit « Oh, petit Louis, tu cherches Jean le bout de ta queue ?» Les trois autres se marrent. Duroy ne rit pas. Il n'a toujours pas parlé. Il range ses papiers dans son portefeuille avec la photo de Louise et de Michel. Il est marié depuis juin 1935. Il aime Louise raisonnablement. Il l'aimait mieux avant. Louise s'est réfugiée chez ses parents à Pont-en-Royan au printemps 1943, avec la petite. Duroy aurait dû y passer, faire la surprise. Il aurait pu partir plus tôt. Duroy détaille le chef. C'est un gars d'ici, il le sait depuis qu'il a parlé. Les « haies » qui sonnent « et », le genre qu'il dit « jaor ». Il n'y a plus personne sur le plateau. Les 3000 hommes restants ont levé le camp, filé dans la vallée, près des leurs, ou rejoint les unités de combat. Le chef dévisage Duroy comme un étranger. Pourtant, au tout frais commissariat à la République, on l'assimile au pays. À cause de son nom de résistant, Royan. La ferme des beaux-parents est juste en dessous, à 18 kilomètres. Le chef FFI a ses raisons et ses chefs à lui aussi. Duroy n'est venu dans le Vercors pour la première fois qu'à l'été 1936 pour les congés payés. Il avait 25 ans. Il est du Nord, mais il connaît les routes d'ici et les coins de traquenard. Le sourire du FFI dit que lui a été élevé dans les montagnes, là où les orages s'abattent après les bourrasques de vent chaud. Duroy tapote sur son énorme volant blanc. Le passage du barrage est trop lent. Il n'aime pas ces gars et il aime encore moins le dit petit Louis qui refait son lacet sous son pare-choc arrière. Il consulte sa montre bracelet blanc peint, le cadeau de mariage qui a coûté bien trop cher. Il est 8h15. Le transfert en solitaire de la baronne Ehrlich est une mission de routine. Tout va fonctionner comme sur des roulettes. Sauf si des amis veulent sauver sa peau et la rapatrier en Allemagne ou lui couper la langue avant de lui trancher la gorge. Le chef FFI fait signe que le véhicule va enfin pouvoir passer en ouvrant la main. Duroy remercie d'un mouvement de menton et tire une taffe sur sa cigarette. Il a acheté 10 paquets de rallye au marché noir. Les dockers ont dû les voler à la Ciotat, mais il aime bien le tabac blond. Il trouve les cigarettes US meilleures que les gauloises caporales empaquetées dans du papier Kraft. Et la morale est un concept philosophique inventé par Grand Beau Temps. Les trois autres FFI poussent maintenant la deuxième charrette sur le bas-côté. Duroy lisse ses cheveux vers la gauche. Sa mèche frise et revient chatouiller son front. Il observe le bitume crevé dans le rétroviseur latéral et repère les genoux de petit Louis. Sa cigarette est pincée au coin de sa bouche. Il souffle la fumée par le nez, salue à la militaire le bleu bite qui chefaille, puis il démarre. Il n'a jamais parlé. Le véhicule file dans le soleil et traverse le village. La petite église rectangulaire et son toit en zinc sont debout. Et le café du Progrès aussi. Les Allemands se sont surtout concentrés sur Vassieux et la chapelle.